Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ce matin, je vous propose de nous envoler pour l'un des plus grands pays d'Afrique, pays berceau de l'humanité, mais aussi l'un des plus anciens pays chrétiens du monde. De ce pays situé à l'est de l'Afrique, on connaît en effet au moins ces fameuses églises souterraines construites à l'initiative du roi Lalibela, des églises creusées dans la roche au XIIe siècle, image d'une église multiséculaire. Ce pays, vous l'aurez deviné, c'est évidemment l'Éthiopie. Alors, pour nous parler donc de l'église d'Éthiopie, à la découverte de l'église d'Éthiopie ce matin, Mesfin Tekle Mariam, vous êtes chef d'entreprise ici en région Midi-Pyrénées, à Toulouse, et donc vous êtes originaire d'Éthiopie et vous êtes vous-même donc orthodoxe.
Oui.
Le père Jean-Jacques Rouchy, vous êtes délégué diocésain aux relations œcuméniques et aux relations avec l'islam. Alors, commençons par découvrir ce pays. Peut-être pouvez-vous, je vais vous donner la parole à vous pour commencer, Mesfin Tekle Mariam, est-ce que vous pouvez nous le décrire? Donc c'est un des plus grands pays d'Afrique, hein, c'est un pays gigantesque, plus d'un million de kilomètres carrés. C'est un pays où la capitale est on va dire très élevée, enfin, c'est un pays d'altitude où il y a pas mal de montagnes, et puis c'est un pays qui est aussi un des berceaux de l'humanité. Alors peut-être faut-il commencer par cela.
Effectivement, donc l'Éthiopie, comme vous l'avez dit, c'est un très très grand pays, et par sa superficie qui est le 9e et par sa population qui est le 2e pays, donc le plus peuplé d'Afrique, avec plus de 94 millions des Éthiopiens. Et effectivement, quand on parle de la géographie, donc on a des altitudes qui varient à moins 128 mètres en dessous du niveau de la mer, jusqu'à 4500 mètres d'altitude, donc sur la race des chênes, et qui est constitué par les hauts plateaux, comme on dit, donc comme connu l'Éthiopie. Et après, historiquement, c'est depuis la nuit des temps, donc c'est un pays qui a toujours existé, qui a toujours joué un rôle très très important donc dans la commerce entre l'Europe et l'Asie et l'Europe orientale, l'Asie orientale aussi. Et par sa situation géographique, ça a toujours attiré donc les étrangers. Et, voilà, c'est un peuple qui est un peu mélangé, donc c'est un très grand pays et qui mérite d'être connu.
Alors, je disais, c'est un des berceaux de l'humanité, parce que c'est là-bas qu'on y a découvert Lucie, donc en 1974, et en 2003 aussi les plus anciens spécimens d'Homo sapiens. Est-ce qu'on peut dire un mot de cette découverte, et pourquoi c'est ici qu'on aurait trouvé les premiers hommes, Jean-Jacques Rouchy?
Il semble que ce serait l'un des points où l'humanité est émergée, ce serait ensuite répandu dans toute la planète. Alors effectivement, c'est un lieu de haut plateau, donc relativement protégé, en même temps un lieu de passage avec les côtes de la mer Rouge, avec l'Afrique, hein, avec aussi la pénétration par le Nil. Et donc la diffusion de l'humanité se serait faite à partir de quelques foyers. On est à peu près sûr, justement grâce à Lucie et à d'autres études préhistoriques, que l'humanité serait partie de là, au moins comme un de ces foyers d'origine.
Même s'il y a eu quelques découvertes donc dans d'autres pays d'Afrique, c'est vrai, la découverte de Lucie qui se rapproche de très près donc à l'homme actuel, ça amène à dire que bon, c'est l'humanité démarre de là.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous le décrire peut-être, ce pays? Donc c'est un pays très très religieux, hein, donc à majorité chrétienne, hein, essentiellement orthodoxe, on va dire talonné par les musulmans, mais auquel pour les chrétiens, en fait, il faut ajouter, c'était là mon erreur en début d'émission, il faut ajouter les protestants et les catholiques. Alors dites-nous à quoi ça ressemble aujourd'hui, je sais pas quel type de régime politique, et puis quelle réalité, donc un pays très religieux et en même temps assez contrasté.
Oui, donc bon, le régime, l'Éthiopie maintenant s'appelle donc la fédérale démocratique d'Éthiopie, même si bon, je mets un bémol sur la démocratie, parce que bon, ça fait quand même 25 ans, c'est le même régime qui existe depuis la chute donc du régime marxiste, et malgré les élections ou les pseudo-élections qui sont organisées, c'est toujours la même partie qui gagne. Donc c'est un peu compliqué pour en parler, pour dire que c'est un pays de démocratie, mais bon, il y a toujours de mieux pour par rapport à surtout à ce régime de marxiste qui nous a fait très très mal, qui a sacrifié des générations des intellectuels. Ça a été l'horreur donc cette époque-là.
Ça a été un régime marxiste de camp à camp.
C'était de la chute de l'empereur donc de 1974 jusqu'à 1991. Ça a été donc géré par un régime marxiste donc qui a été responsable de pas mal de dégâts et de pas mal donc des exactions qui sont voilà qui nous ont amené à un point. C'était très très compliqué.
Économiquement, peut-être on peut en dire un mot aussi. Comment se situe le pays, peut-être en Afrique et puis par rapport au reste du monde.
Économiquement, il y a toujours de mieux. Comme je vous dis, en partant de zéro, on peut toujours faire mieux. On ne peut que faire mieux. Et c'est vrai, les économistes, ils nous disent donc il y a une croissance à deux chiffres. Donc ça donne une espérance très très bien. Et après, par rapport au potentiel qui peut avoir le pays, c'est qu'il y a rien d'exploité, parce que bon, c'est un pays qui n'a jamais été colonisé, à l'exception donc de 5 années d'occupation d'Italie. Et le sous-sol donc
de ce pays riche, voilà, et c'est un pays riche qui a un sous-sol riche
qui n'a pas été exploité. Et surtout bon, pour le moment, ce qu'on peut en tirer donc de la richesse d'Éthiopie, c'est essentiellement agricole. C'est le pays qui exporte le plus de café donc en Afrique. Après il y a aussi la plante qu'on appelle le tchat actuellement qui s'exporte pas mal aussi. Et après, il y a l'élevage en termes de bovins, de poulailles, tous les animaux. On est en nombre, on est en première d'Afrique. En qualité, bon, peut-être moins, mais.
Père Jean-Jacques Rouchy, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Sinon, avant la première pause, il faudrait qu'on parle de la reine de Saba.
Oui, alors il y a beaucoup de liens entre l'Éthiopie et d'autres pays, en particulier dans une époque très très ancienne, sous la reine Hatshepsut en 1470 avant le Christ, dans la fameuse expédition au pays de Punt qui se trouve dans son temple à Deir el-Bahari au sud de Luxor. Donc la pharaon Hatshepsut avait envoyé une expédition au pays de Punt, et le pays de Punt, ben, c'est pas loin de l'Éthiopie, pour amener de l'or, des plantes, des arbres précieux, et on a une fresque encore visible aujourd'hui qui raconte cette expédition. Donc il y a eu des liens très très forts jusqu'aussi à la fin de l'époque pharaonique où entre le nord de l'Éthiopie et le sud du Soudan, il y a eu à Meroé et à Napata, donc une présence égyptienne très forte, et il y a eu ce qu'on appelle les pharaons éthiopiens, dont le fameux Taharqa qui a sa statue dans le temple de Luxor et qui est venu en quelque sorte redonner un petit peu vie à la fin de la période pharaonique. Donc il y a eu des liens très anciens. Alors la reine de Saba. Alors, aussi,
disons un mot de la reine de Saba, voilà.
Voilà. Alors la reine de Saba, non, ça se trouve dans le premier livre des rois au chapitre 10. Donc la reine, alors Saba, c'est aussi dans les psaumes, c'est aussi dans Isaïe, les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Donc on va les retrouver au moment de la visite des mages. Mais bien avant cela, donc au temps de Salomon, vers le 10e siècle avant le Christ, la reine de Saba a fait une expédition donc pour venir se nourrir de la sagesse du roi Salomon. Elle a apporté d'ailleurs du bois de santal, comme dit le chapitre 10, qui a été introduit dans le temple de Jérusalem, donc Salomon était en train de construire.
Et Saba étant l'ancien nom de l'Éthiopie.
Alors, Saba, c'est l'un des noms mythiques qui peut désigner certaines régions de l'actuelle Éthiopie. Voilà. Et donc la reine de Saba serait revenue toute illuminée de la sagesse de Salomon, et elle aurait ramené en son sein un fils de Salomon qui serait l'ancêtre des empereurs d'Éthiopie. Donc on retrouvera d'ailleurs la dynastie salomonienne après les Agoué en 1270 de notre ère.
Oh, Mandela.
Voilà, ce matin, une émission à la découverte de l'église d'Éthiopie, avec autour de la table Mesfine Teklé-Mariam, vous êtes donc chef d'entreprise à Toulouse et originaire d'Éthiopie et orthodoxe, et le père Jean-Jacques Rouchy, délégué diocésain aux relations œcuméniques et aux relations avec l'islam. Alors, vous nous avez fait très rapidement découvrir, le problème c'est qu'on peut pas voir de photos ni d'images, donc il faudra que les auditeurs après aillent se promener sur internet, regardent des films, mais c'est vrai que c'est un pays enfin magnifique et vraiment fascinant, moi pour ce que j'ai pu regarder hier rapidement sur internet. Donc on parlait de la reine de Saba. Alors dans cette deuxième partie, on va dire de présentation davantage de l'église d'Éthiopie, je voulais qu'on commence par parler donc des mages, puisque, alors j'ai appris ça aussi, c'est bien, on apprend toujours des choses dans cette émission, grâce à vous, l'un des mages, celui qui aurait la peau foncée, on va dire, serait justement originaire d'Éthiopie, en tout cas c'est ce que dit la tradition. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Père Jean-Jacques Rouchy? Il y avait un Éthiopien à la crèche.
Effectivement, la présence donc à la crèche marque que dès la naissance du Christ, donc il n'est pas seulement le Messie promis à Israël, mais le Sauveur universel, et cela est manifesté par cette présence qui avait été annoncée donc par effectivement les liens, comme on l'a dit, par la reine de Saba, mais déjà dans les psaumes ou dans Isaïe, il y avait des passages disant que les rois de Saba et de Séba feront leur présent, les rois de Tarsis et des îles viendront voir le Messie. Donc, appuyé sur cette tradition, enfin sur ces textes évangéliques, donc nous avons dans les évangiles de l'enfance, en Matthieu, donc la visite des mages, hein, qui serait l'un des premiers contacts, donc guidés par l'étoile, hein, les sages qui auraient par leur culture, en particulier astronomique, qui seraient venus donc reconnaître en Jésus le Messie promis au monde et pas seulement à Israël. Donc ce premier lien sera concrétisé ensuite par l'évangélisation de l'Éthiopie avec le diacre Philippe.
Donc, alors voilà, j'allais dire, exactement, est-ce qu'on peut en dire un mot? C'est donc l'autre grande figure.
Dans les Actes des Apôtres, on montre comment l'eunuque de Candace, reine d'Éthiopie, qui était donc dans cette mouvance des liens déjà fort anciens entre le judaïsme et l'Éthiopie, donc c'était un prosélyte, donc un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, qui était un cherchant Dieu, et justement qui lisait le livre d'Isaïe, et dont le diacre Philippe a été pris par les cheveux, par l'Esprit Saint, et s'est retrouvé dans le char de l'eunuque, et lui a expliqué que ce qu'il était en train de lire dans l'Ancien Testament annonçait le Christ, et aussitôt le diacre Philippe l'a baptisé. Et donc cette eunuque serait revenue en Éthiopie, ça aurait été avant, donc au 4e siècle, des missionnaires, si l'on peut dire, d'origine syrienne, mais envoyés par l'Égypte, implantent véritablement le christianisme. Mais déjà donc au tout premier siècle, avec l'histoire du baptême de cette eunuque, il y a une présence chrétienne attestée, et qui serait les germes donc de l'Église éthiopienne depuis les origines.
Et qui serait un signe en fait de la volonté de Dieu aussi que cette terre soit chrétienne en fait entre ce mage et cet épisode du diacre Philippe.
Il y a une insistance dans le récit des Actes sur l'action de l'Esprit qui a propulsé Philippe sur la route de l'eunuque.
Alors, si on continue après si j'ai bien préparé cette émission, la christianisation de l'Éthiopie en fait se fait donc autour de Frumence. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qui était ce Frumence? Donc, laïc syrien semble-t-il introduit à la cour d'Éthiopie après un naufrage en mer Rouge. Alors, dites-nous voilà. Tout de cette épopée.
Tout ce que nous disons là marque l'importance de l'Éthiopie avec justement tout le commerce de la mer Rouge, qui a attiré donc l'intérêt des puissances de l'époque pour des raisons économiques, avec donc il y avait l'or, il y avait de l'ivoire. Hein,
donc l'époque, c'est les premiers siècles. Hein. Alors, on est autour du 4e siècle.
Oui, de façon très effectivement, surtout au 1er siècle, mais déjà au temps de l'Égypte ancienne, il y avait un intérêt économique majeur pour cette région, et un intérêt aussi militaire, puisque les éléphants étaient fournis en particulier aux successeurs d'Alexandre qui régnait à Alexandrie, les armées égyptiennes hellénistiques allaient chercher leurs éléphants en Éthiopie. Donc il y avait aussi un intérêt d'une certaine manière stratégique, et puis sur les côtes de la mer Rouge, il y avait tout un commerce avec l'Inde, donc qui donnait à cette région une grande importance, avec en particulier le port d'Adulis, hein, dont il y a un fameux auteur byzantin qui s'appelle Cosmas Indico Pleustès, c'est-à-dire qui a navigué sur les côtes de l'Inde et donc de la mer Rouge, qui mentionne donc ce port d'Adulis qui serait le port du royaume d'Axum. Alors Frumentios et Aedesios sont deux Tyriens, donc de Tyr, actuellement au Liban, hein, qui auraient été esclaves et de ces expéditions, voilà, par Adulis, et qui serait arrivé à la cour d'Axum et aurait été les précepteurs
suite à un naufrage. Mais voilà. Alors on comprend pas très bien comment, enfin s'ils étaient esclaves qui sont arrivés par naufrage, comment ils se sont retrouvés à la cour du roi.
Mais un peu comme Joseph en Égypte, si vous voulez, dans l'Ancien Testament, ce sont des étrangers qui parlaient grec et qui représentaient un intérêt aussi culturel majeur que le roi du pays a compris. Il les a donnés comme précepteur à son fils Ezana, qui a été donc le premier roi d'Éthiopie, le premier empereur d'Éthiopie chrétien. Donc
c'est aussi que la doctrine de ces deux frères a plu au roi. Tout à fait.
Et justement dans la mouvance aussi de toute l'influence de l'Ancien Testament, il y avait toute une préparation, si vous voulez, par les racines donc juives de l'Église d'Éthiopie qui a favorisé aussi l'annonce de l'Évangile. Alors ils sont revenus donc non pas à Tyr, mais à Alexandrie, où ils sont allés voir le patriarche Athanase, donc le grand archevêque d'Alexandrie, qui a ordonné évêque Frumentios et qui l'a renvoyé en Éthiopie pour fonder donc l'Église, faire d'autres évêques, et ça a été le premier patriarche de l'Église éthiopienne et donc le Négus, enfin le premier empereur, a inauguré une longue série d'empereurs sacrés, donc jusqu'à Haïlé Sélassié, qui a été déposé en 1974, avec une histoire particulièrement tumultueuse. On pourra revenir sur quelques points.
Alors, pardon, vous voulez dire quelque chose?
Je voulais juste rajouter par rapport à ce qu'il disait Jean-Jacques, c'est que le christianisme est arrivé en Éthiopie effectivement avec le baptême d'eunuque de la reine de Candace. Nous, on l'appelle la reine Hendeke en éthiopienne. Et vu que l'empereur déjà, le royaume a été déjà commencé à être chrétien, l'arrivée donc de Frumentios, ça nous a servi plus de rentrer en lien avec l'église d'Alexandrie et de nous faire donc, puisqu'il parlait déjà beaucoup de langues Frumentios, il parlait grec, il parlait égyptien, et dans l'histoire donc il a traduit pas mal de livres saints.
D'accord, c'est-à-dire que le pays était déjà préparé, enfin il commençait à être chrétien, sauf que les autorités n'étaient pas chrétiennes.
Justement, c'est les autorités qui étaient chrétiennes, donc ce qui correspondait un peu le ministre de finances qui a été baptisé donc par le diacre Philippe.
Ah, d'accord.
Donc voilà, c'est en termes de royaume,
les élites étaient un peu christianisées.
Voilà, étaient déjà chrétiens, mais bon, ils savaient pas comment un peu répandre l'évangile donc dans toute l'Éthiopie.
Alors après, c'est pareil, si j'ai bien compris, il y a eu une longue parenthèse. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça correspond tout à fait à cette époque, mais en tout cas, pendant plusieurs siècles, en fait, il y a eu une période en fait où le pays a été relativement isolé suite aux invasions arabes.
Oui.
Et après, les démissionnaires sont arrivés, on va dire, au 15e siècle, et en fait, ont découvert un pays qui était chrétien.
Alors, petit épisode des débuts de l'islam, donc quand Mohammed commence à prêcher à la Mecque, il est persécuté et il envoie se réfugier auprès du Négus en Éthiopie, donc en traversant la mer Rouge, quelques dizaines de premiers convertis de l'islam qui vont être accueillis à la cour du Négus. Et dans la tradition islamique, donc ces réfugiés auraient lu au Négus de l'époque, donc on est vers le 630 et quel, enfin vers 610-620, dont le Négus de l'époque aurait pleuré, d'après la tradition islamique, en entendant réciter le Coran. Et à partir de cette rencontre, l'un des musulmans serait resté en Éthiopie et aurait été converti. Les autres sont revenus une fois que la persécution était moins forte, mais il y en est resté de la part des musulmans une grande considération par rapport aux chrétiens éthiopiens. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'il y a eu une tentative d'invasion.
Alors dites-nous tout quand même de cette parenthèse où ce royaume, semble-t-il, a été assez isolé, et après donc les missionnaires, sont arrivés au XVe siècle, ils ont un peu...
On n'a plus tellement de textes qui en parlent, mais il y a continué quand même à y avoir pas mal de relations, en particulier avec l'église d'Alexandrie. Donc, le patriarche d'Alexandrie envoyait un évêque égyptien, chrétien égyptien, pour être l'abouna, c'est-à-dire le patriarche de l'église d'Éthiopie, et ce jusqu'en 1959. Donc il y avait des liens, et en particulier ces liens étaient renforcés par la présence de royaumes chrétiens qui sont demeurés jusqu'au XVIe siècle en Haute-Nubie. Dans l'actuel Soudan, il y a eu des royaumes chrétiens jusqu'à ce que les sultans mamelouks, donc entre 13e et 14e siècle, suppriment ces royaumes chrétiens. Donc ça fait quand même toute une relation commerciale et religieuse avec l'Égypte. Et une implantation éthiopienne très ancienne à Jérusalem et à Chypre.
Mesfin Tekemariam, c'est vrai que, enfin, il faut pas que ça devienne une émission de spécialiste sur l'histoire de l'Église chrétienne d'Éthiopie, parce que sinon on va perdre une partie de nos auditeurs. Mais c'est vraiment passionnant. Mais c'est vrai que ce qui est fascinant, enfin, quand on découvre un tout petit peu ce pays et cette Église, c'est qu'on a l'impression de découvrir ou de toucher du doigt, ne serait-ce que par des photos ou par des vidéos ou quand on vous en entend parler, une Église des premiers siècles en fait et qui continue en fait à exister là-bas. On a l'impression de faire un voyage dans le temps. Alors Père Jean-Jacques Rouchy pourra en dire un mot aussi, d'une église aussi qui a gardé, où les racines, ses liens avec le judaïsme sont encore très prégnants. Il y a par exemple dans les montagnes encore beaucoup de monastères, monastères orthodoxes, qui ressemblent un peu au monastère des pères du désert en fait.
Exactement, donc c'est vrai, c'est... même s'il y a eu des périodes un peu difficiles pour l'église orthodoxe dans l'histoire donc d'Éthiopie, et justement donc de cet isolement que vous en parlez, vous évoquez il y a un instant, ça a été donc l'Église a toujours été dépendante donc d'Alexandrie, donc de l'Église d'Alexandrie. Justement.
Donc cet isolement a été bien réel, parce que le père Jean-Jacques Rouchy a pas tout à fait répondu à la question. Ah, oui, il y a eu un isolement important de cette Église.
Il y a eu un isolement puisque donc Alexandrie a été moins forte donc dans le temps. Et que l'Église orthodoxe a été toujours dépendante d'Alexandrie, donc ce qui faisait qu'il y avait des moments, des années et des années sans avoir un évêque qui descendait d'Alexandrie.
L'influence des souverains musulmans qui régnaient sur l'Égypte et qui interagissaient aussi avec la nomination du patriarche.
Exactement. Donc ça a été très très compliqué pendant des siècles. Puisque bon, il y avait des années et des années, on attendait que la nomination d'un...
Les 900, là.
Exactement. Les 900, c'était à l'époque plutôt...
Alors les 900, attendez, restez pas, parlez pas entre vous, là. C'est quoi les 900? Parlez-nous, ce sont des figures de cette espèce de résistance spirituelle au long des siècles, pour un pays qui était entouré, enfin pas entouré, mais en tout cas qui était environné par...
Les 900, c'est les premières persécutées donc, de l'église copte, de l'église orthodoxe qui se sont fait réfugier donc en Éthiopie et qui ont œuvré justement donc dans les constructions des monastères, des églises
5e, 6e siècle.
Et exactement. Donc justement après le concile de Chalcédoine donc eux ils ont œuvré justement pour la construction et des églises, des monastères, surtout des traductions des livres. Et c'est vrai, ça même s'il y avait cet isolement qui fait que on est toujours dépendant d'Alexandrie, mais avec les prêtres qu'on avait, avec les livres qui ont été traduits, cette tradition est toujours restée.
Alors, on continue, on avance, hein, parce que il faudra que vous organisiez un voyage, vous le suggérez en début d'émission, Père Jacques Rouchy, en Éthiopie, pour découvrir tout ça, et puis surtout pour que toute cette histoire, en fait, nous parle, parce qu'on y verra des pierres et des hommes. Peut-être avant qu'on fasse une deuxième pause musicale, pour être tout à fait, pas complet, mais presque, sur cette histoire histoire chrétienne en Éthiopie, il faut parler donc des missions catholiques au 15e et au 19e siècle. Alors, les catholiques là-bas sont extrêmement minoritaire, c'est moins de 1% des croyants, c'est donc, je disais, essentiellement des orthodoxes et puis des protestants suite à l'arrivée des évangéliques, hein, si j'ai bien compris. Exactement. En tout cas, pour les catholiques, voilà, il y a eu des missionnaires, donc missionnaires jésuites, vous disiez. Dites-nous un mot peut-être de ces missions, en Éthiopie. Qu'est-ce qu'ils ont découvert quand ils sont arrivés et puis en quoi ils ont consisté.
On reviendra peut-être à la Libella après, si vous voulez.
Oui, et puis on parlera de la Libella après, dans une autre partie.
Avec l'expansion portugaise, donc dans les Indes orientales, n'est-ce pas, qui arrivent sur les côtes de la mer Rouge jusqu'en Indonésie, et dans cette tentative donc d'avoir des ports, ils sont intéressés par le port d'Adulis, donc, et il commence à y avoir des relations très fortes, d'autant plus que avec la suppression des royaumes chrétiens du Soudan, de Nubie, donc la pression islamique arrive de façon assez forte en Éthiopie. Il y aura une tentative de conquête qui d'ailleurs réussira pendant une vingtaine d'années par le fameux Ahmed Gran.
Mais ne vous égarez pas, Père Jean Crouchy.
Et c'est là que les empereurs d'Éthiopie feront appel aux Portugais, dont je ne m'égare pas parce que c'est la même période, pour les aider à lutter contre l'invasion islamique. Alors évidemment, l'armée portugaise va se précipiter dans cette proposition, et une fois les musulmans chassés, si l'on peut dire, bien ils vont rester et ils vont essayer de convertir l'Éthiopie au catholicisme. Parce que dans la perspective théologique de l'époque, on n'avait pas compris que les chrétiens éthiopiens avaient la même foi. Seulement à partir des définitions des conciles christologiques et trinitaires, l'influence alexandrine avait fait que les mots pour définir la foi n'étaient pas les mêmes que ceux des grands conciles, en particulier celui de Chalcédoine.
Donc on les prenait pour des monophysites.
Voilà, et on les prenait pour des monophysites. Ce qui veut dire que, on les accusait de croire que le Christ n'était que Dieu. Et d'ailleurs, l'Église éthiopienne s'appelle aujourd'hui Tewahedo, c'est-à-dire unitarienne, donc une seule nature. Mais en fait, c'est une, si vous voulez, ce sont des expressions utilisées pour dire la même chose que nous. Donc, Cyril d'Alexandrie disait une seule nature du Verbe de Dieu incarné, alors que la foi catholique à partir de Cassian disait qu'il y a une seule personne dans laquelle les deux natures du Christ cohabitent sans confusion et sans séparation, sans division et sans opposition. Voilà, donc c'est une sur la foi du fait que cette différence de mots impliquait une différence de croyance, les Portugais ont essayé de catholiciser les Éthiopiens. Et ils ont réussi, plus ou moins, ils ont été chassés, les Jésuites sont revenus donc à partir de 1632, et ils ont converti un empereur d'Éthiopie au catholicisme. Alors il y a eu des persécutions, on a rebaptisé les gens, on a reconsacré les églises, on a vandalisé les tombes des saints éthiopiens. Enfin, ça a été quand même pas très sympathique et tout à fait incorrect. Et donc l'empereur converti est mort et son fils est revenu, donc là on est en 1632, est revenu donc à la foi éthiopienne traditionnelle. Il y a eu un ambassadeur d'ailleurs français qui a ramené une tête d'éléphant à Louis XIV. Hein. Alors évidemment, étant donné les mois de voyage qu'il fallait, quand il a ouvert le coffre, hein, il restait un morceau d'oreille tout pourri, et ça a été un scandale à la cour de Versailles. Ça a été raconté par Ruffin dans un de ses livres.
Et quel rapport avec ces missions catholiques?
Alors, les missions catholiques
sont... Quel est le rapport de cet épisode de l'accord de Louis XIV?
Les rapports, c'est qu'il y avait des relations, si vous voulez, diplomatiques, d'accord. Avec les nations catholiques, en particulier avec le roi de France. Voilà,
donc
les Portugais.
On fait une deuxième pause et puis après vous allez nous parler donc des merveilles du roi Lalibela, ces fameuses églises souterraines qui sont, on va dire, un peu l'emblème de l'église d'Éthiopie.
Présence à Belmont-sur-Ance, 93.1. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, ce matin, donc, une émission à la découverte de l'église d'Éthiopie avec Mesfin Teklemariam, chef d'entreprise ici à Toulouse, d'originaire d'Éthiopie et orthodoxe, et le père Jean-Jacques Rouchy, délégué diocésain aux relations œcuméniques et aux relations avec l'islam. Alors, vous nous avez présenté à gros traits l'Éthiopie en début d'émission. Après, on a fait une longue promenade historique, sur les racines chrétiennes de ce pays, donc avec la reine de Saba, avec le diacre Philippe, avec cette première évangélisation, on va dire, avec Frumence et son frère, donc autour des premiers siècles de l'ère chrétienne, puis cette cette longue période d'isolement peut-être avec autour de pays musulmans, et puis ces missions catholiques qui ont un peu été compliquées. Voilà, pour résumer à très gros traits. Maintenant, peut-être, puisque c'est pas d'abord le propos de raconter l'histoire de l'Église, décrire certaines des réalités. Alors, est-ce que donc je proposais donc de se promener dans ces merveilles du roi Lalibela, ce que sont ces églises souterraines. Alors là, qui pour le coup sont assez connues du grand public. Hein, beaucoup de gens ont vu ça à la télévision, dans des documentaires ou autres. Donc je crois que c'est 11 églises, voilà, qui ont été construites de haut en bas. À la différence de la plupart des églises ou des cathédrales dans le monde, qui ont été creusées dans la roche, et donc par ce saint roi Lalibela au XIIe siècle. Alors, avant de raconter l'histoire, est-ce que vous pouvez nous décrire, vous y êtes déjà allé, j'imagine? Non, jamais. Ah bah oui. Père Jean-Jacques Rouchy non plus.
Malheureusement, non. Bah, dites-moi, alors, effectivement.
Il est temps d'organiser un pèlerinage, oui, avec Radio Présence et avec le diocèse de Toulouse. Donc, il faut décrire ces églises qui sont assez, assez fascinantes et puis nous dire comment elles étaient construites. Elles ont été construites parce qu'elles ont été construites de manière assez, dans des circonstances, on va dire, politiques et religieuses particulières, mais de manière assez, étonnante, voire pas miraculeuse, mais enfin, en tout cas, considérées par certains comme d'origine divine.
Exactement. Bon, ça reste toujours divine parce que l'empereur Gabriel Mascal, donc, qui est redevenu, donc, saint de la Libella, a eu donc l'idée ou a constaté donc toujours dans l'histoire d'Éthiopie il y a toujours des pèlerinages qui ont été organisés donc d'Éthiopie à Jérusalem.
Pèlerinage, oui.
Et pendant l'époque juste avant lui donc il y avait des centaines des Éthiopiens, des milliers de gens qui partaient donc au pèlerinage et qui revenaient pas puisque bon la route était barrée quand même par les musulmans et donc ça a été très très tendu. Donc pour éviter ce long voyage donc à Jérusalem, il a eu l'idée divine pour de construire un deuxième Jérusalem à la ville Roha.
Roha, on appelle ça la Jérusalem Noire, c'est voilà, ça
la Jérusalem Noire, donc à la ville de Roha, qui était la capitale d'Éthiopie de l'époque. D'Éthiopie qui a quand même, bon, même si maintenant la capitale d'Éthiopie est Addis Ababa, il y a eu quand même 5-6 changements de capitale dans l'histoire. Et Roha en était une à cette époque du XIIe siècle.
Alors qu'est-ce qu'il a construit? Décrivez-nous ce qu'il a construit.
Il a construit donc des églises. Il y a aussi des monastères, mais c'est des églises sous terre et qui sont nommées, donc qui ont de nominations exactement par rapport à Jérusalem. Donc il y a Golgotha, il y a des noms de lieux qui existent à Jérusalem pour exactement reproduire en Éthiopie, mais sur d'autres formes. Donc, ce qui est notamment la plus connue, l'église la plus connue, c'est l'église Saint-Georges, qui est sous forme de croix, quand on la regarde de haut vers le bas, et qui est entièrement creusée sous la roche et qui sert toujours donc d'église à la Libella.
Et qui sont des lieux saints pour l'église.
Ah oui, maintenant oui, c'est des lieux de pèlerinage. Donc c'est pour ça que je dis, il faut que je fasse aussi mon pèlerinage.
Ouais, oui, il serait temps. Hein. Alors, Père Jean-Jacques Rouchy, peut-être ça peut être l'occasion, vous voulez peut-être ajouter quelque chose, mais aussi je voulais vous demander que ça soit l'occasion que vous nous disiez quelque chose des racines juives, ou en tout cas des restes de la tradition juive qui demeure.
Un écrivain musulman, Abou Salih, la dynastie donc peut se prévaloir d'une descendance de Salomon. Le roi est sacré suivant la liturgie antique. Le métropolite lui saint le front de Mando. Il est ordonné prêtre. Il célèbre la liturgie comme les autres prêtres. Il possède le trône de David ainsi que l'arche d'alliance et la table des 10 commandements.
Et vous parlez de qui là en fait?
L'empereur. L'empereur la Libella.
D'accord.
Donc, 4 fois par an, à Noël, à l'Épiphanie, à Pâques et à la fête de la Sainte Croix, on transporte l'Arche d'Alliance en procession, on célèbre sur elle la Sainte Liturgie. Donc ça se passe à la Libella. Et donc ça fait partie, si vous voulez, de cet héritage un peu mythique, mais qui manifeste la présence dans la liturgie éthiopienne jusqu'aujourd'hui d'une grande influence de ce que nous appelons l'Ancien Testament. Alors, est-ce que l'Arche d'Alliance est vraiment la Libella?
Dites-nous un mot de cette Arche de l'Alliance, parce que c'est vrai que c'est...
Non, alors l'Arche d'Alliance, c'est une réalité donc, qui se trouve dans l'Ancien Testament. Donc, lorsque les Israélites, les Hébreux sont sortis d'Égypte, donc Moïse a reçu les tables de la loi en 2 fois, sur le mont Sinaï, et l'Arche d'Alliance était dans la tente qui accompagnait le peuple pendant les 40 ans de migration depuis l'Exode jusqu'à l'entrée en Terre Sainte. Donc dans l'Arche d'Alliance, il y avait les tables de la loi, il y avait le bâton d'Aaron, et il y avait une mesure de la manne. Et donc c'est l'Arche d'Alliance qui a ouvert l'entrée en Terre Sainte à travers le Jourdain sous la conduite de Josué. Donc cette arche d'alliance est restée sous la tente jusqu'à ce que David, donc Josué en gros c'est vers 1250, et 250 ans après, donc l'arche a été à Silo, elle a été prise par les Philistins, donc on est dans l'Ancien Testament, et David a voulu faire un temple pour justement, dans le Saint des Saints, il y avait l'arche d'alliance qui nous est décrite dans l'Ancien Testament. Et alors cette arche d'alliance
a disparu lorsque
Titus a pris Jérusalem en 70. Alors c'est là que ça va donner lieu d'ailleurs à des films assez récents, dont les aventuriers de l'arche perdue, et dont l'arche, que serait-elle devenue? Alors il y a une tradition selon laquelle elle serait en Éthiopie.
Pour
rapprocher les wagons, si on peut dire.
Il faut peut-être en dire davantage, c'est-à-dire que cette arche d'alliance, en fait, donc est conservée en un lieu, alors qui semble-t-il pas à la Libella.
Pas à la Libella,
hein, où seul un grand prêtre, comme dans la tradition juive, une fois par an, en fait, peut rentrer dans ce qui est le Saint des Saints et se tenir en présence de l'arche d'alliance.
Exactement. Donc l'histoire, c'est comme l'a raconté le Père Rouchy. Et cette arche de l'Alliance, par contre, elle s'est regardée à une église qu'on appelle Assomption, donc, qui est la capitale donc, de l'époque de royaume d'Aksum, qui est dans la ville d'Aksum. Donc il y a une église qu'on appelle Assomption. Et l'arche de l'Alliance est conservée donc, justement à cette église. Et qu'il y a une personne, donc un moine, qui est donc le gardien de ce temple et qui a la responsabilité de cette arche. Et parallèlement, je vous parle aussi d'une église qui est en Bagchen, je ne sais pas si le Père Rouchy en connaît, là où on aurait conservé donc une partie de la Sainte Croix. Il y a une partie de la Sainte Croix qui est conservée donc à une église qu'on appelle Ambagchen. Donc c'est pareil, c'est sur les montagnes, à une accession très très compliquée et qui s'est regardée donc toujours par un moine et l'accès aux personnes est interdit.
Donc ça permet de, enfin après il faut visualiser, mais donc c'est un pays immense, c'est un pays chrétien on va dire depuis très longtemps, de longues traditions chrétiennes de nombreux monastères, hein. Je crois que je disais qu'il y a à peu près 900 monastères orthodoxes, c'est ça, en Éthiopie.
Oui.
Voilà, donc des monastères qui sont un peu perdus dans le désert. Je disais, ça fait penser un peu aux pères du désert, comme des monastères dans le Judée.
L'origine du monachisme, Saint-Antoine, enfin, c'est les pères du désert, exactement.
En plus.
Tout à fait.
Voilà, et donc avec en plus donc cette Jérusalem noire, donc la Libella, et puis donc cette fameuse tradition, peut-être la conservation de l'Arche d'Alliance. Donc voilà.
Alors, bon, c'est une tradition, hein. Il semble hautement improbable qu'il reste c'est du bois en plus, donc avec les incendies, les prises de ville. Mais ça montre en tout cas une réalité, c'est l'imprégnation juive, enfin d'Ancien Testament, dans ce christianisme qui est tout à fait vivant et qui est donc un lien vivant, si vous voulez, avec nos origines juives.
Alors, il faut dire un mot peut-être avant éventuellement qu'on fasse une dernière pause, mais de la ferveur aussi des gens. C'est-à-dire que c'est un pays de tradition chrétienne, mais on a l'impression que, enfin, quand on regarde des reportages, quand on se renseigne un petit peu, les gens sont pas chrétiens à la marge. Il y a à l'occasion, par exemple, des grandes fêtes, il y a des célébrations qui, chez nous, paraîtraient complètement lunaires, en fait, où il y a vraiment une dévotion populaire très, très importante.
Après, déjà, sans parler des grandes célébrations, si on regarde la messe de dimanche, il n'y a aucune église qui aurait la place pour accueillir tous les adeptes. Donc les adeptes sont même en dehors pour assister à la messe. Donc c'est ne serait-ce que la messe de dimanche, donc la liturgie de dimanche matin, il y a des milliers et des milliers de gens autour de ces églises. Et après, bon, je... Par rapport à ce qu'on parlait au tout début de la présence, de la situation géographique de l'Éthiopie, si on parle tout autour, donc à part même le nord du Kenya qui est plutôt musulman, mais quand on regarde à l'ouest tout le Soudan et de côté de Somalie, pareil, l'islam est présent et entoure donc l'Éthiopie. C'est vrai, on en parle très peu, mais c'est un pays qui est qui est vraiment chrétien. Qui
a... Oui, une très grande pratique. Il n'y a pas eu la sécularisation que nous avons connue en Occident. Et justement, du fait aussi de la présence de l'islam, et l'état du Sud-Soudan, qui est tout récent, est aussi peuplé de chrétiens. Mmh. Et donc, il y a eu un rayonnement aussi de l'Éthiopie en dehors d'elle-même. Mmh. Et la conscience nationale, si vous voulez, comme en Pologne, par exemple, est très marquée par l'appartenance au christianisme. Donc, ce qui explique aussi, avec l'absence de sécularisation, la ferveur conservée et développée des populations.
Alors, le pape François a reçu récemment votre... patriarche, c'est ça?
Oui, le patriarche Abuna Mathias. Oui.
Voilà, c'était donc il y a quelques semaines, si je ne me trompe pas.
Semaines,
vous savez quelle a été la raison de cette visite ou la teneur de leur échange?
Honnêtement, non. Je sais que le patriarche a été reçu. J'en ai vu même quelques photos en présence donc, de pape François. Et c'est vrai, c'est touchant, c'est pour un Éthiopien, donc déjà le voir son pape, ça m'émeut. Mais après, le contenu, honnêtement, je ne sais pas.
Alors, depuis Benoît XVI, effectivement, il y a une intensification du rapprochement avec les églises orthodoxes. Alors, l'église éthiopienne n'est pas proprement parlée, on appelle plutôt église orthodoxe celles qui se sont développées vers l'Orient. Mais là, on appelle plutôt les églises orientales. C'est-à-dire c'est plus ancien que ce que nous appelons orthodoxe, du schisme donc de 1054, puisque là l'église date du 4e siècle, et donc elle est, il faut souligner que c'est la, mis à part l'église orthodoxe russe qui a à peu près 150 millions de fidèles, c'est la plus importante église orientale avec 50 millions de fidèles. C'est pour ça aussi que le pape François a eu le souci de recevoir ce patriarche pour renforcer les liens et essayer de progresser aussi vers une unité qui ne soit pas par l'uniatisme, comme on faisait jusqu'à une date assez récente, mais vraiment par un rapprochement de fond et un respect des traditions propres pour éviter les erreurs précisément des 15e et 16e siècles.
Alors, pour finir, comment ne pas évoquer la persécution dont sont l'objet aujourd'hui les chrétiens? Alors, c'est vrai que ça peut paraître difficile à comprendre, puisque semble-t-il, c'est un pays qui est majoritairement chrétien. Cette persécution, on va dire indirectement, on a en tête l'assassinat de ces 29 otages éthiopiens par l'État islamique, mais c'était en Libye, donc en avril 2015, si je me trompe pas. Voilà, donc des images qui ont frappé le monde entier. On les voyait donc habillés en orange, cagoulés, et donc ils ont été décapités, si je me trompe pas. Voilà, est-ce qu'on peut dire un mot de cette persécution dans ce pays? D'où viennent ces persécutions? On a envie de dire, puisque c'est censé être un pays chrétien, et quelle est la réalité de ces persécutions?
Alors, c'est vrai, ces images, ça reste encore toujours dans la tête. C'est très très difficile. Et juste pour rajouter, avec les 29 Éthiopiens qui ont été égorgés par Daesh, il y avait aussi un musulman qui montre un peu l'histoire d'Éthiopie, donc entre les chrétiens et les musulmans, malgré quelques difficultés qu'on a eues dans l'histoire. C'est le peuple qui a toujours avancé d'abord la nation, donc l'Éthiopie, même si la religion elle est à part, elle est différente, mais on a toujours vécu ensemble, on a toujours des liens très très forts, et qui serait mort avec eux, juste par solidarité, parce que même s'il est musulman, il ne conçoit pas voir donc ses compatriotes, ses frères se faire égorger, et lui...
Le régime marxiste qui a été persécuteur.
Voilà. Après,
après, d'où viennent ces persécutions aujourd'hui alors?
Aujourd'hui, c'est une persécution, c'est un grand mot, mais c'est plus de par rapport à ce qui se passe donc actuellement. C'est il y a une très très forte présence donc de l'Église évangélique, donc de l'Église protestante qui pousse un peu partout et qui essaie donc de détruire l'Église, que ça soit pas de l'interne ou de l'extérieur, en donnant donc de mauvaises images, en faisant de mauvais discours et justement donc ce qu'il disait le père Rouchy, on est chrétien une fois, on ne redevient pas chrétien. Donc c'est vrai, on évangélise ceux qui n'ont pas eu l'occasion de rencontrer l'évangile ou le christianisme. On n'attaque pas les chrétiens qui sont déjà baptisés, qui sont déjà chrétiens. malgré ce qui est difficile avec les protestants, c'est ça. Ils sont juste avec les moyens qu'ils ont donc des pays occidentaux.
Dans l'Amérique.
Alors juste pour bien comprendre, parce que l'émission touche à sa fin, c'est-à-dire que la persécution des chrétiens, en fait, ce serait le fait que les chrétiens évangéliques seraient mal acceptés en fait dans votre pays. Ce serait eux qui seraient l'objet en fait de.
Qui seraient l'objet de quelques. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est
grignote plutôt l'Église qui est déjà là.
C'est plutôt l'Église protestante, donc l'Église évangélique, qui attaque, qui essaie donc de racheter que les jeunes, les fidèles, ceux qui ont moins de moyens, donc en le faisant convertir en protestant, en évangélique.
D'accord. Et Père Jean Crochet, pour finir.
Un dernier mot sur les Rastas. Donc tout le monde connaît les Rastas en Jamaïque. Eh bien, puisque l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, les anciens esclaves de Jamaïque ont fini par adorer Haïlé Sélassié, donc qui était le prince Tafari, le Rastafari, et il y a eu une religion qui s'est développée avec donc les dreadlocks et tout ça. Et donc par la Jamaïque, c'est une sorte de dommage rendu à l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée, puisqu'en 1896, donc son indépendance a été reconnue alors que tout le reste de l'Afrique était colonisé. Donc les Rastas sont un hommage américain donc à cette vaillance, si l'on peut dire, des Éthiopiens.
Voilà, alors il faudra refaire une émission sur les Rastas. Merci beaucoup à nos invités d'être venus nous parler de l'Église d'Éthiopie. On espère que le Père Jean Crochet organisera un pèlerinage prochainement. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur internet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.